Dans Vue de Belgique avec Claude Moniquet, on va revenir sur le régime de détention de Salah Abdeslam. Vous savez, Salah Abdeslam qui a demandé de meilleures conditions de détention. Et Salah Abdeslam, seul terroriste vivant ayant participé aux attentats de 2015 et qui avait donc, je le rappelle, demandé un allègement des mesures restrictives prises à son encontre en prison. Et donc, Claude Moniquet répond à ce sujet aux questions d'Ilan Lévy. À noter quand même que cet entretien s'est déroulé, c'était jeudi soir.
Bonjour Monsieur Moniquet, même avec tous ces régimes de sécurité qui ont été posés à Salah Abdeslam, il a déjà menacé le directeur de la prison, ce qu'il conteste, il a reçu une clé USB avec de la propagande djihadiste. Est-ce qu'il reste toujours une menace en prison et est-ce que, après tous ces incidents, on peut se dire que finalement ces conditions de détention ne sont pas assez sévères?
Pas assez sévère, je ne dirais pas. Honnêtement, je ne vois pas très bien en quoi elle pourrait être plus sévère. Salah Abdeslam est sauf erreur de ma part, au maximum de ce qu'on peut faire avec des fouilles régulières, des inspections régulières de sa cellule, une surveillance quasiment permanente. Mais simplement, on est en face d'un détenu très convaincu, très très agressif et qui n'a rien à perdre. Donc, effectivement, il faut pas s'attendre de sa part, en tout cas avant un certain nombre d'années éventuellement, à ce qu'il ait une conduite conciliante ou même neutre par rapport au régime pénitentiaire et au personnel pénitentiaire qui l'entoure. Et puis par ailleurs, c'est un individu qui va terminer, en tout cas s'il reste en prison en France, parce que s'il était transféré en Belgique, tout est toujours possible. Mais s'il reste en prison en France, c'est un individu qui sait très bien qu'il finira en prison, qu'il mourra en prison. Donc il n'a strictement rien à perdre. Et la seule manière qu'il a de continuer à faire d'une part une forme de djihad et puis d'autre part à exister, c'est de protester contre ses conditions de détention.
Alors vous venez de mentionner le djihad. Est-ce que la prison reste toujours un lieu majeur pour la radicalisation islamiste? Et si oui, est-ce que l'isolement, c'est la meilleure façon d'empêcher la radicalisation en prison? Ou bien, quoi qu'il arrive aujourd'hui, en prison, on n'arrive pas à enrayer ce phénomène? Et si tel est le cas, il ne faudrait pas s'inspirer des modèles de prison à haute sécurité américaine, par exemple?
Alors, je ne pense pas que les prisons américaines soient un modèle. Je pense honnêtement que pour une certaine catégorie de criminels, à savoir pour les terroristes et pour le crime organisé, je pense que les conditions de détention, en tout cas en France, je ne me prononcerai pas pour les autres pays, sont en général suffisantes. Maintenant, pour répondre à la partie la plus importante de votre question, oui, la prison reste un lieu de radicalisation, mais c'est un problème extrêmement complexe parce que il n'y a pas vraiment de solution. On a tout envisagé. À un moment donné, on mélangeait les détenus radicalisés avec les non-radicalisés. Le résultat, c'est que les radicalisés radicalisaient ceux qui ne l'étaient pas. Ensuite, on a concentré les radicalisés. Mais à ce moment-là, vous concentrez des gens extrêmement dangereux et qui vont entretenir mutuellement leur flamme djihadiste. Et vous ne pouvez pas mettre tout le monde à l'isolement. Entre autres d'ailleurs parce que simplement, d'un point de vue légal et réglementaire, ça ne se justifierait pas. Mais de toute façon, il n'y aurait pas assez de place, il n'y aurait pas assez. L'isolement, c'est très très compliqué, y compris pour le personnel carcéral. Les conditions de surveillance, les conditions d'accompagnement des détenus, les conditions de promenade font que c'est extrêmement chronophage et extrêmement mobilisateur d'énergie. Donc on ne peut pas l'adapter à tout le monde. Et par ailleurs, parce que nous sommes dans des régimes démocratiques et c'est tant mieux, et je pense qu'il faut continuer à les défendre, parce que précisément ceux qu'on met en prison pour des motifs djihadistes, ce sont des gens qui ont combattu notre système, qui ont combattu notre démocratie, donc on doit les défendre. Par ailleurs, tout le monde est d'accord sur le fait qu'en dehors des mesures de sécurité nécessaires, les conditions de détention doivent être dignes. Donc, mettre tout le monde en isolement ne se justifierait pas. Dans le cas de Salah Abdeslam, c'est amplement justifié, bien entendu.
Ça fait plus de 10 ans après les attentats de novembre 2015. Est-ce que la menace terroriste est toujours aussi importante sur notre sol?
La menace terroriste a changé. Ce qui s'est passé en 2015... En fait, même avant, en 2014, en fait, avec le premier attentat de l'État islamique en Europe au musée juif de Bruxelles, Ce qui s'est passé à l'époque, c'était qu'il y avait une organisation qui s'appelait l'État islamique, qui était arrivée à imposer son pouvoir sur un territoire très vaste entre la Syrie et l'Irak, enfin à cheval plus exactement sur la Syrie et l'Irak, et qui a attiré des milliers de djihadistes européens ou africains ou nord-africains ou moyen-orientaux ou asiatiques, les y a formés, et puis on a reprojeté certains vers leur pays d'origine. Donc des commandos qui avaient été entraînés, qui avaient été formés, qui avaient été encore plus radicalisés idéologiquement, et puis qui avaient été financés pour les achats d'armes, d'explosifs, se procurer des planques, etc. Et on a eu une séquence inouïe, qu'on n'avait jamais connue avant, entre, disons, le janvier 2015, les attentats contre Charlie Hebdo, qui n'étaient pas dus à l'État islamique, mais qui ont marqué le début de cette période réellement, et 2017, les attentats des Ramblas à Barcelone, qui sont la dernière manifestation importante d'un groupe organisé de Daesh en Europe, on a eu des attentats quasiment toutes les semaines dans un pays européen. Ça, c'est fini. Il est très clair qu'il n'y a plus de territorialité de l'État islamique, donc il n'y a plus cette capacité d'attirer des gens, de les former et de les reprojeter, d'une part. Et puis d'autre part, l'État islamique n'est plus perçu comme il était à l'époque, comme un modèle gagnant par les extrémistes. Donc il est moins attirant. Il reste que l'État islamique garde la capacité d'influencer des gens, de radicaliser des gens online, et qu'on a régulièrement des tentatives d'attentats ou des attentats, habituellement individuels, qui donc la plupart du temps, mais pas toujours, font beaucoup moins de dégâts. Et ça va continuer. Ça ne s'est pas arrêté. Par ailleurs, on n'est pas du tout à l'abri d'une résurgence de réseaux terroristes transnationaux structurés qui pourraient frapper de manière beaucoup plus massive. Mais pour le moment, heureusement, on n'en est pas là. Donc, je dirais la menace terroriste a changé de nature, mais n'a pas disparu.
Alors, il y a récemment eu un attentat qui a visé la synagogue de Liège, ici en Belgique. Est-ce que la communauté juive, c'est toujours une des cibles numéro une en Europe de la part des terroristes islamistes?
C'est une des cibles principales. Je ne dirais pas que c'est la cible principale, mais c'est une des cibles principales, bien évidemment. Là, on était. L'attentat de Liège est un attentat qui est à replacer dans un contexte qui est très très précis, qu'on connaît aujourd'hui parfaitement, qui est celui d'une campagne d'attentat organisée par les services secrets iraniens, par l'intermédiaire d'un individu, Mohamed Al-Saadi, qui a été arrêté en Turquie, extradé aux États-Unis et qui est actuellement sous enquête aux États-Unis. Qui est un Irakien, mais proche des gardiens de la Révolution. C'était un intime de Qassem Soleimani, le chef de la force Al-Quds, qui a été éliminé à Bagdad en janvier 2020 dans une frappe américaine à l'aéroport de Bagdad. Et cet homme avait pris en charge l'organisation d'attentats, en fait, partout dans le monde. Il a fait commettre, plus exactement, et souvent par des mineurs, pas toujours, mais souvent par des mineurs, et presque toujours, voire toujours, par des délinquants de droit commun. Il a fait commettre des attentats à Liège, à Anvers, à Amsterdam, à Rotterdam, à Skopje en Macédoine, à Toronto au Canada, à Londres à plusieurs reprises, y compris les deux personnes poignardées à Golder Green il y a quelques semaines. Et il préparait des attentats massifs aux États-Unis. Donc c'était du terrorisme individuel sur le terrain. Mais avec un mode opératoire qui était très très codifié, hein. Il fallait frapper la nuit avec des engins incendiaires, la plupart du temps, enfin dans 90% des cas, filmer son acte pour montrer qu'on l'avait fait de manière à être payé, hein, simplement, et à pouvoir être et payé très peu. On parle de quelques centaines d'euros pour mettre le feu à une entreprise, à une maison ou à une synagogue. Mais pour ces gamins, c'était manifestement suffisant. Mais c'était un mode opératoire qui s'est répété autour du monde, en tout cas en Europe et en Amérique du Nord. Voilà. Mais donc il y avait une commandite d'État. Donc c'est un peu différent. Ce sont pas des actes spontanés. C'est pas tout d'un coup un milieu djihadiste qui s'est enflammé. Ce sont des truands, des trafiquants de drogue, souvent mineurs, qui ont été payés par un service d'État, par les services de renseignement iraniens, le MOIS, pour commettre des attentats.
Et cette nouvelle vague d'attentats qu'il y a eu avec la main iranienne derrière elle, est-ce que maintenant, après l'annonce d'un accord d'un cessez-le-feu, cette menace, elle persiste toujours sur notre sol?
Elle persistera toujours parce que Ça fait un petit moment, un peu plus de 40 ans que je suis les affaires iraniennes, entre autres. Il est évident que les Iraniens ne vont pas se plier à toutes les conditions américaines. Après, on verra si on arrive à un accord final. Pour le moment, on n'y est pas. Pas du tout. Si accord final il y a, on verra si les Iraniens le respectent. On n'a aucune raison de penser qu'ils vont le respecter, puisque le JCPOA, ils n'ont jamais respecté. Ils s'étaient engagés à ne pas enrichir l'uranium, ils ont continué à le faire joyeusement en cachant leurs activités à l'AIEA. Donc, tout laisse penser qu'ils vont continuer, avec la circonstance aggravante que maintenant ils vont recevoir 300 milliards de dollars, ce qui leur permet quand même de se remettre un peu à flot. Ils vont pouvoir prélever une taxe sur le passage des bateaux dans le détroit d'Ormuz. Donc, en fait, qui sort victorieux de la guerre pour le moment? Ce n'est pas les Américains, ni les Israéliens, ce sont les Iraniens. Ce qu'ils ressentent d'ailleurs et ce qu'ils proclament eux-mêmes comme une victoire quand ils disent nous avons humilié l'Amérique, va probablement les pousser à continuer à sponsoriser le terrorisme. Et de toute façon, ça c'est la version positive. Et la version négative, si les négociations finissent par échouer ou ne sont pas appliquées par les Iraniens, à un moment donné, il y aura un retour à la guerre et donc un retour au terrorisme. Donc oui, je pense qu'on n'en a pas du tout terminé avec le terrorisme d'État iranien.
Monsieur Moniquet, merci beaucoup pour votre temps et vos réponses.
C'est moi qui vous remercie.